Bonjour à tous. Alors, le texte que nous allons voir aujourd'hui, il est intrinsèquement lié à une réalité biblique qu'on expérimente tous les jours et qui pourtant est énormément rejetée aujourd'hui. C'est le principe du péché et de la culpabilité qui lui est associé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas vouloir parler de péché. On trouve ça à dépasser comme concept. On veut préférer d'autres approches pour parler du péché. Et il y a différentes approches. Alors, il y en a certaines, elles vont voir le péché plutôt comme une pathologie. Et on va essayer de médicaliser le péché. Le péché est plus présenté comme quelque chose dont on doit se repentir, mais juste quelque chose qu'on doit soigner. Il y a d'autres approches où on va dire, tant que je fais rien d'illégal, c'est bon, j'ai pas à culpabiliser. Et une approche encore qui est peut-être plus courante, c'est parfois de voir nos problèmes, nos travers, tous nos travers, comme des problèmes d'estime de soi, de manque d'amour-propre ou de complexe intérieur. Et ça crée de la culpabilité. Et la psychologie moderne, elle va essayer de supprimer cette culpabilité parce qu'elle fait souffrir. Et parfois, c'est vrai que la culpabilité est parfois mauvaise, hein. On a des cas où des victimes d'agression culpabilisent alors que c'est l'agresseur qui devrait culpabiliser. Mais bien souvent, notre culpabilité, elle est un signal, elle est fondée. Notre culpabilité, elle nous alerte sur quelque chose qui, au fond de nous, ne va pas. Et c'est ce qu'on ressent tous. Au fond de nous, on a tous ressenti cette culpabilité. On a tous des secrets sombres, qu'on ne souhaite pas que ça sache. On a tous commis des choses qu'on sait qu'elles étaient mauvaises. Ça peut être une tromperie, un mensonge, un acte de méchanceté, de la convoitise. Et même si on n'a pas de religion, même si on n'a pas de religion, il y a toujours cette charge mentale des échecs qui est là, parce qu'on sait, on réalise toutes les fois on a failli à notre propre loi, à notre propre règle de vie, nos propres règles de droiture. Et tous ces souvenirs de ces échecs, ça va infuser de la culpabilité dans nos cœurs. Et aujourd'hui, même avec toute l'éducation qu'on a, toutes les technologies qu'on a, tous les progrès qu'on a, bah, l'être humain est quand même incapable de s'empêcher de faire du mal à lui-même ou aux autres. Et comment expliquer cela? Et finalement, le problème, il a l'air beaucoup plus profond qu'une question d'éducation, de pauvreté ou d'environnement social. Et la Bible, elle rend compte de cette réalité en affirmant que nous sommes tous pécheurs. Et c'est ce qu'on ressent tous par un sentiment d'échec moral, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bien que ce que l'on aimerait. On a tous failli quelque part à notre propre standard, qu'on soit des personnes religieuses, croyantes ou non. Et le péché, c'est comme cette incapacité chronique que l'on a à faire le bien qu'on voudrait, à être aussi bien qu'on voudrait et qu'on devrait. Mais la Bible, elle affirme clairement qu'on est tous pécheurs, mais elle affirme aussi que Dieu a pourvu à une solution. Et nous sommes dans cette série sur la lettre aux Hébreux, et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 10, où l'auteur a atteint un pic dans son argumentation. L'auteur veut arriver ici à nous montrer la solution ultime de Dieu à notre péché. Et cette solution ultime de Dieu, c'est la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, comment le sacrifice de Christ pourrait être une solution à nos sentiments de culpabilité et cette culpabilité qu'on tente d'apaiser? Comment ça pourrait marcher? Eh bien, Jésus-Christ, il nous rend parfaitement acceptables devant Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte qui nous montre que le sacrifice de Christ est un sacrifice nécessaire, un sacrifice intentionnel et un sacrifice parfaitement efficace. Alors, je vous propose de lire ensemble Hébreux 10, versets 1 à 18. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, En entrant dans le monde, Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet: Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit: Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré: Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons tous été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis lui soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit », il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs fautes ». Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Alors regardons, pour commencer, les versets 1 à 4. On voit que ce sacrifice est nécessaire. Parce que l'auteur, il commence à montrer ici que le système de l'Ancien Testament avec les sacrifices était insuffisant. C'est ce qu'il affirme dès le verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. L'auteur, il avait déjà affirmé dans le chapitre 8, si vous vous rappelez, le tabernacle était une ombre du véritable tabernacle céleste. Et maintenant, il applique la même description pour la loi, et là, plus particulièrement, son système de sacrifice. Il veut montrer à ses lecteurs que ce système de sacrifice, il n'était pas une fin en soi, mais c'était quelque chose qui va pointer vers une réalité à venir, que le vrai sacrifice devait avoir lieu, il pointait vers autre chose. Et il attaque le cœur même de ce système en parlant de l'offrande annuelle, c'est l'offrande de la fête du grand pardon. C'était la fête principale lévitique, c'était la fête centrale. C'est un peu comme si on parlait de Noël ou de Pâques aujourd'hui. Donc là, il va leur montrer que cette fête et tout son système de sacrifice est dépassé. Il y a trois limites qu'il affirme par rapport à ce système qui auraient été probablement choquantes pour les Juifs à l'époque. Il dit que la loi, elle était temporaire. La loi, elle n'était pas quelque chose de final, mais était juste une ombre qui pointait vers autre chose. Et troisièmement, elle ne pouvait jamais amener à la perfection, jamais amener à la pureté morale ceux qui se confiaient en elle. Pour prouver cela, il va dire en fait que les sacrifices de l'Ancien Testament, ils sont répétés sans cesse. Et que le sang, il est incapable du coup d'enlever le péché. En fait, son argument est assez efficace. Hein. Si les sacrifices de l'Ancien Testament, ils avaient été utiles pour retirer le péché, alors leur conscience aurait été purifiée et on n'aurait pas besoin d'en offrir année après année des sacrifices. Donc quand l'auteur il nous parle de cet état de perfection dans lequel il faut être amené, ça, il ne veut pas dire une absence de défaut, mais il parle plutôt de cet état de bonne relation avec Dieu. Il veut nous amener dans un état où on peut s'approcher avec Dieu, on peut s'approcher de Dieu. Ou un état où les hommes auraient été lavés de leurs défauts, de leur culpabilité, de leurs péchés, délivrés de ce sentiment de culpabilité. Et il parle aussi de la conscience des péchés, c'est-à-dire la conscience morale qui va condamner celui qui s'approche de Dieu. Et le système des sacrifices, ben, il ne pouvait pas résoudre ce problème de conscience et de culpabilité personnelle. Au contraire, non seulement il ne pouvait pas, mais les sacrifices de l'Ancien Testament, il nous dit il rappelait le problème du péché. C'est-à-dire que non seulement il n'avait pas la conscience, mais en plus il rappelait chaque année que les adorateurs finalement étaient exclus de la présence de Dieu. Et l'auteur, il enfonce le clou en disant « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs il enlève les péchés. » Alors, ah oui, désolé, il y a des caractères qui ont sauté. C'est un texte à trous. C'est ça. Donc, comment ôter les péchés? Alors, on n'a pas trop de mal à comprendre à notre époque que les sacrifices, le sang des taureaux et des boucs, il enlève le péché. J'imagine que vous n'avez pas trop été tenté pour soulager votre conscience de faire un holocauste dans votre jardin ou sur votre balcon. Donc, ça, on est d'accord plutôt avec l'auteur. Et on pourrait se dire, tout ce système de sacrifice, de toute façon, c'était bien archaïque, bien futile. Mais en fait, on raterait le point de l'auteur. L'auteur, en fait, il veut nous montrer que on a un problème avec le péché. Et on a tous une façon d'y faire face. Au fond de nous, on va vouloir faire quelque chose pour alléger notre conscience, comme les Israélites de l'époque. Et donc, du coup, la question, elle demeure aujourd'hui. Comment ôter les péchés? Si vous êtes croyant, si vous êtes religieux, vous pouvez peut-être croire que certains rituels vont vous amener à vous approcher de Dieu. On peut chercher des choses pour être accepté de Dieu. Peut-être que vous vous dites, il faut avoir lu assez la Bible. Il faut avoir été assez souvent à l'église pour pouvoir s'approcher de Dieu. Ou alors, il faut avoir assez prié, assez donné à des œuvres caritatives, avoir dit assez de bonnes paroles ou avoir fait un pèlerinage. Et ces choses, elles sont pas mauvaises, mais elles peuvent devenir comme des rituels qui nous, par lesquels on cherche à avoir une bonne conscience pour s'approcher de Dieu. Et là, l'auteur, il nous dirait, bah, il est impossible que ces choses ôtent le péché. Et parfois, on se cache vers des raisons spirituelles, hein. On pourrait dire, je vais garder le regret, la culpabilité de mes fautes passées pour montrer que je le regrette vraiment. Et je vais avoir cet état d'esprit de pseudo-contrition, et comme ça, je vais recevoir le pardon. Et en fait, on fait comme une sorte de pénitence, hein, et on veut s'auto-infliger quelque chose dans le but d'obtenir un pardon, dans le but d'obtenir un allègement de ma conscience. Mais ça aussi, l'auteur nous dirait, c'est impossible que ça ôte les péchés. En fait, même si vous n'êtes pas du tout croyant, en fait, on a tous des moyens d'alléger notre conscience. Hein, aujourd'hui, je pense qu'on beaucoup le cherche dans la méditation en pleine conscience ou dans le yoga, dans des choses comme ça qui permettent de chercher la paix et l'harmonie en soi. On va chercher la paix et l'harmonie, on va chercher à s'alléger de la conscience. Ou alors dans une consommation éthique. On va essayer d'avoir une bonne consommation pour alléger notre conscience en allégeant notre bilan carbone. C'est aussi quelque chose qu'on va chercher à faire. Ou alors on va essayer de prendre position pour des choses qui nous semblent bonnes et justes sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ou alors, on peut aussi voir des psychologues qui vont essayer de parler de tous ces poids qu'on a. Et là, le psychologue va probablement essayer de redorer notre estime de soi pour qu'on s'en sorte mieux à propos de nous-mêmes. Et ça va peut-être marcher un moment. Mais en fait, dans tous ces cas, les approches, elles ne règlent pas le problème de fond. Le problème de fond, il n'est pas réglé et il faudra recommencer à nouveau, comme ces sacrifices qu'il fallait recommencer à nouveau. Et il est impossible que ces choses, elles ôtent le péché et qu'elles donnent une conscience pure. Et maintenant, du coup, on peut prendre conscience de la grandeur de ce que veut nous dire l'auteur. Notre humanité, elle désespère de trouver un moyen d'apaiser sa conscience, de soulager la culpabilité. Parce qu'on est tous coupables. On se rend compte qu'au fond de nous, on est tous coupables, on a toute cette culpabilité. Et cet état, il nous empêche de nous approcher de Dieu. Il nous fallait un moyen de secours, il nous fallait un moyen qui vienne de plus grand que nous. La Bible, elle parle souvent du péché comme un esclavage. Et quand on est esclave de quelque chose, on a besoin de quelqu'un plus grand, de quelqu'un plus fort qui vienne nous libérer. Et c'est ce que Dieu a fait et c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Ce qui nous amène à notre deuxième point, un sacrifice intentionnel, voulu par Dieu. Parce qu'après avoir fait le constat de ce qui ne marche pas et du besoin d'une solution, l'auteur va nous présenter la solution voulue et faite par Dieu. Et cette solution, c'est la venue de Christ dans le monde. C'est l'incarnation de Jésus-Christ. Et pour cela, l'auteur, il va s'appuyer sur le psaume 40 dans cette partie. Alors ce psaume 40, c'est un psaume de David. Et étrangement, l'auteur le place dans la bouche du Messie, de Jésus. Alors, notre auteur, il connaît très bien sa Bible, il ne s'est pas trompé, il n'a pas fait un anachronisme gros comme ça. En fait, il a fait cela volontairement pour nous montrer que c'est un psaume messianique et que les paroles de David, elles ont un sens pour David, mais elles ont aussi un sens plus grand encore, car elles parlent du Messie. Et pour bien comprendre pourquoi il utilise ce psaume, il faut bien comprendre le psaume en lui-même. Et du coup, dans ce psaume, le roi David, il a vécu une extraordinaire libération de Dieu. Il a vu une intervention extraordinaire du Seigneur dans sa vie pour le délivrer. Et en réponse à cela, il va se soumettre à Dieu, il va glorifier Dieu, il va s'offrir à Dieu. Et il veut montrer par là que le véritable culte, le culte à Dieu, c'est pas d'offrir des sacrifices, mais c'est se donner à Dieu, et c'est donner à Dieu la primauté, la place centrale, et de lui obéir totalement. Et en fait, c'est ce qu'on est tous appelés à faire. Mais c'est ce qu'on a tous échoué aussi à faire. On échoue tous à faire cela. On a vu notre état de pécheur nous rend incapables de suivre le cadre moral que Dieu voulait qu'on suive. Et c'est là que ce texte, il s'applique à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui est venu pour faire la volonté de Dieu. Il est celui qui lui a obéi parfaitement. Donc, l'obéissance de Jésus-Christ. Le livre rouleau dont il est question, c'est la Torah. La loi de Dieu qui contient toute la volonté de Dieu. Et ici, dans ce passage, on voit que la vie de Jésus, ça sera l'incarnation de la loi écrite. Il va suivre complètement et totalement la volonté de Dieu. Et ce rouleau, peut-être qu'aussi dans la pensée de l'auteur, il comprenait les prophètes. Parce que les prophètes aussi, ils ont annoncé la venue de Jésus, la venue du Messie, comme la loi. Ils ont pointé vers ce plan de sauvetage qu'accomplirait Dieu. Et Jésus, du coup, il a fait à notre place ce qui était impossible pour nous. Il a pleinement obéi à Dieu. Jésus, ce n'était pas juste un bon exemple moral pour nous donner un exemple à suivre. Mais il a aussi accompli les choses à notre place. Romains 5, 19 nous dit, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire Adam, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'obéissance de Jésus, du coup, dans ce cas-là. Et en fait, le fait que Jésus vienne sur terre, c'était aussi le plan et la volonté de Dieu. Donc il est celui qui accomplit pleinement la volonté de Dieu, mais cette venue, c'était aussi la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, tu m'as formé un corps, c'est l'incarnation, et je viens faire ta volonté. Jésus, il s'incarne pour faire la volonté de Dieu, et ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut nous sauver de nos péchés. Et Jésus, il vient pour un changement majeur. C'est ce que nous dit le verset 9, il veut abolir l'ancienne alliance de la loi, des œuvres, des principes des forts humains qui ne marchent pas, pour une alliance qui est basée sur ce que lui, il a fait. Et cette attitude d'obéissance et de soumission de Jésus, c'est aussi, ça comprend aussi cette résolution qu'il a d'aller mourir à la croix, à notre place. C'est pour ça que ce texte nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu pour effectuer la purification des péchés. Il n'est pas venu juste pour donner un exemple moral à suivre. Il est venu faire les choses à notre place. Et cela comprend de prendre sur lui le juste jugement qui était sur nous. À cause de nos fautes, cette culpabilité qui était sur nous, cette culpabilité qui était dans notre conscience, il l'a prise sur lui. Lui qui n'avait jamais commis de mal et qui a toujours suivi la volonté divine. C'est un peu comme si Jésus, il était auprès de Dieu et lui, il avait reçu toutes les médailles pour son obéissance. Il a reçu toutes les médailles, toutes les récompenses pour son obéissance. Et nous, à côté, on était des personnes avec un vêtement de prisonnier. Parce qu'on était des condamnés, on avait tout le poids de notre conscience et on avait nos vêtements de prisonnier qui étaient là. Et Jésus, il vient et en fait, il prend nos vêtements de prisonnier sur lui. Et il nous donne ses récompenses, il nous donne ses médailles. On est à la fois purifié de tout mal et en même temps on reçoit toutes ces récompenses, toutes ces justices que Jésus il a accomplies pour nous. C'est un peu comme si on avait une dette énorme, que notre compte était à moins 10 millions. Et Dieu, il vient pas juste dire j'efface la dette, ton compte est à zéro maintenant. Mais il le crédite de 10 milliards supplémentaires. C'est la justice de Christ qui nous offre par-dessus. Donc il nous restaure complètement, il efface nos fautes et il nous donne cette justice qu'on ne méritait pas. Et vous voyez, les religions sont souvent question des hommes qui font des choses pour Dieu. Les hommes font des sacrifices ou des actions pour gagner une faveur divine. Mais le christianisme, lui, il affirme que c'est Dieu qui a fait toutes les choses. Et que c'est pas nous, mais que c'est au travers de Jésus-Christ, son Fils, qu'on peut recevoir ce que nous, on n'aurait jamais pu faire. En vivant la vie parfaite que Jésus a vécue, il l'a vécue à notre place, il a payé à notre place les fautes que nous avions commises, et c'est ainsi que Jésus peut nous offrir ce salut, cette restauration, cette libération à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et le résultat de cette obéissance de Jésus à la volonté du Père, c'est que nous sommes rendus saints, au verset 10, et cela une fois pour toutes. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point, un sacrifice parfaitement efficace. Dans cette dernière partie du texte, le ministère de grand prêtre de Jésus-Christ est mis en comparaison avec les grands prêtres lévites de la loi, de l'Ancien Testament. Et ces grands prêtres lévites, ils sont pécheurs, c'est des hommes pécheurs comme tout le monde. Et cette comparaison, elle est faite pour montrer que l'œuvre de Jésus-Christ, elle est différente, elle est définitive. Et il relève trois différences par rapport entre les prêtres lévitiques et Jésus, du coup. Il y a la répétition, l'efficacité et la posture. Alors, la répétition, parce que les prêtres, ils doivent faire à nouveau les mêmes sacrifices encore et encore. C'est ce que nous dit le texte, ils doivent chaque année, chaque jour, tout le temps, ils doivent représenter les sacrifices. Alors que Jésus, lui, il a présenté un seul et unique sacrifice, l'offrande de lui-même, l'offrande de son corps, et il l'a fait une fois pour toutes. C'est l'efficacité. Au lieu que ces sacrifices qui peuvent jamais ôter le péché, celui de Jésus, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saint. Donc il est pleinement efficace. Et enfin, il est question de la posture. Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Bon, alors du coup, celui-là, on peut se dire, bon, quand on entend qu'il s'est assis à la droite de Dieu, on peut se dire, mais ça me fait une belle jambe, mais t'as fait quoi de plus utile sinon de t'asseoir? Mais en fait, c'est dans la pensée de l'auteur, c'est important. C'est capital, ce fait qu'il se soit assis à la droite de Dieu. C'est une allusion au psaume 110 qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la lettre aux Hébreux et qui nous parle du Messie qui s'assoit à la droite de Dieu. Et la position debout en fait des prêtres de l'époque, elle correspondait à une attitude de serviteur qui était en travail. Il doit effectuer son travail. Et comme les sacrifices doivent être faits continuellement, il fallait continuellement du coup faire les sacrifices, travailler, et on ne pouvait jamais s'asseoir dans la présence de Dieu parce qu'il fallait forcément faire quelque chose. Et en plus, si le serviteur s'asseyait en présence de son maître, ça voulait dire que le serviteur est l'égal du maître, ce qui serait aussi une offense. Donc du coup, les prêtres lévites, jamais ils s'asseyaient dans la présence de Dieu. Il fallait rester debout, il fallait servir. Et donc du coup, quand il affirme que Jésus s'est assis, ça veut dire que son œuvre, elle a été terminée. Son œuvre, elle est parfaite, elle est complète. Et désormais, c'est fini. Le sacrifice a été offert une fois pour tous, pour toutes. Et Jésus, il a présenté son sacrifice et c'est bon. Son sacrifice pleinement accepté, il nous rend pleinement acceptables par Dieu. Et sa position exaltée à la droite de Dieu, ça nous donne l'assurance que nous pouvons nous approcher de Dieu couverts par la grâce et par la justice de Christ. Un commentateur sur ce passage, il cite John Bunyan, et je trouve cette citation très belle. Il nous dit, John Bunyan, pécheur, tu penses qu'à cause de tes péchés et de tes infirmités, je ne peux pas sauver ton âme. Mais voici, mon fils est auprès de moi, et c'est lui que je regarde, et non toi. Et je te traiterai selon ce que je suis satisfait de lui. Mon approbation envers Dieu, mon accès à Dieu, ma non-culpabilité devant Dieu, elle est fondée sur le fait que de ce que Jésus a fait et non pas ce que moi j'ai fait. Et c'est ce qu'on doit se rappeler en voyant que Jésus, il est assis à la droite du Père. Alors, si vous êtes chrétien, peut-être qu'il y a certains jours où vous vous doutez de pouvoir vraiment vous approcher de Dieu. On peut se dire parfois, mais cette semaine, ça a été un désastre. Je suis tombé des multiples fois dans ce péché récurrent. J'ai pas lu ma Bible une seule fois. Je me suis fâché avec mes parents ou avec mes enfants, avec mon conjoint ou avec tout le monde à la fois. Est-ce que Dieu veut bien de moi? Est-ce que je peux m'approcher de lui en priant? Est-ce que je peux m'attendre à quoi que ce soit de lui le matin à l'église quand je vais me présenter? Et en fait, dans ces moments-là, il faut se rappeler que la semaine dernière, quand tout allait bien, quand on avait lu la Bible, qu'on avait bien parlé avec notre famille, ben on ne méritait pas plus de s'approcher de Dieu. En fait, nos pensées trahissent un fonctionnement de notre cœur qui se base sur des sacrifices, sur des mérites humains, sur des choses qui ne peuvent pas ôter le péché. Les œuvres humaines, elles sont vaines pour se rendre acceptables devant Dieu. Mais parfois, en tant que chrétien, on a une bonne culpabilité. On peut éprouver une bonne culpabilité parfois. C'est celle qui vient de Dieu pour nous montrer là où nous avons péché. Cette culpabilité, elle ne veut pas dire qu'on a été rejeté par Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'on a fait quelque chose qui n'est pas compatible avec le caractère de Jésus que le Saint-Esprit veut façonner en nous. Et du coup, on va ressentir une culpabilité parce que Dieu pointe quelque chose dans nos cœurs. Et dans ces cas-là, par rapport à cette culpabilité-là, la Bible, elle nous dit de reconnaître notre péché et que Dieu nous pardonne. 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Donc quand Dieu pointe un péché dans notre vie, on lui confesse, on lui demande pardon, et après avoir confessé notre péché, on peut saisir ce pardon et cette purification de Dieu que Jésus nous offre grâce à son œuvre envers nous. On n'a plus à culpabiliser après, sinon c'est plus la bonne culpabilité cette fois-ci. Et on n'a pas non plus à attendre un certain nombre de jours qu'on soit purifié, que Dieu a un peu oublie un peu. Non, on est purifié par le sang de Jésus. Et en fait, c'est plutôt l'ennemi que la Bible appelle l'accusateur qui va essayer de nous rappeler sans cesse nos fautes pour nous faire culpabiliser et pour faire qu'on oublie de s'appuyer sur ce pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Alors un autre élément qu'on voit dans cette idée aussi que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est le règne de Christ. Le règne de Christ, parce qu'il est dit qu'en s'asseyant à la droite de Dieu, il va partager une égalité et un règne avec Dieu. C'est lui le roi. En fait, ce grand prêtre, il s'est aussi sacrifié pour nous et il est aussi notre roi. Et un jour, sa royauté, elle sera manifeste pour tout le monde. C'est ce que nous dit le verset 13. Et reconnaître Jésus comme sauveur, celui qui purifie de tout péché, ça ne peut pas se faire sans reconnaître aussi qu'il est le roi de notre vie. Et dans la pensée de la Bible, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est indissociable. Il est notre roi. Aujourd'hui, ça peut sembler pas très attirant de vouloir reconnaître Jésus comme son roi, mais on peut se rappeler que c'est le seul roi qui est pleinement bienveillant et aimant envers nous. C'est le seul roi, Jésus, qui a donné sa vie pour ses sujets, qui s'est sacrifié pour ses sujets. Donc on peut avoir confiance dans ce roi merveilleux. Et ce passage, il se termine par une nouvelle citation de Jérémie 31. C'est la nouvelle alliance qui règle le problème du péché. Je vous aide pour le texte à trous. Alors ce Jérémie 31, il avait déjà été cité en Hébreux 8, hein, on l'avait vu en Hébreux 8, et il nous parle de la nouvelle alliance qui a été conclue par Dieu en Jésus-Christ et qui remplace du coup l'ancienne alliance. Et cette fois-ci, il cite Jérémie 31 en l'accent sur l'assurance. L'assurance que nous donne le Saint-Esprit dans cette nouvelle alliance. Il n'y a plus de péché parce qu'ils sont pardonnés. Le texte dit, Dieu ne se souvient plus des péchés. Alors ça ne veut pas dire que Dieu est amnésique. Ça veut dire que quand on demande pardon pour les péchés, Dieu il nous dit, hein, tu parles de quoi? C'est en fait une façon de montrer comment cette nouvelle alliance elle est supérieure, elle règle définitivement le problème du péché. En fait, là où les sacrifices de l'Ancien Testament, ils rappelaient le souvenir du péché, ben là, la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus des péchés. C'est une façon forte de dire c'est fini, c'est réglé définitivement. Et c'est ce que le Saint-Esprit qui est donné dans nos cœurs, hein, parce que dans le texte, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il nous dit, ben, il nous témoigne que c'est fini ce problème de culpabilité. On est pleinement accepté par Dieu. Et ici, c'est ce Saint-Esprit qui met sa loi dans nos cœurs, ce que nous voit ce passage. Il met sa loi dans nos cœurs, il régénère, il sanctifie nos cœurs. Il nous donne la volonté et le pouvoir de pouvoir faire la volonté de Dieu dans notre vie. Donc dans ce texte, on voit que Jésus nous donne la libération de la culpabilité, l'assurance du salut, mais aussi l'assurance d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut vivre sans porter le poids de cette culpabilité des fautes passées. On n'est peut-être pas d'aussi bons parents que ce que l'on aimerait, peut-être pas d'aussi bons conjoints que ce que l'on aimerait. Peut-être pas d'aussi bon manager, technicien, ouvrier, salarié, médecin, ingénieur, pas d'aussi bon consommateur, pas d'aussi bon gestionnaire de nos biens, pas d'aussi bon chrétien. Mais dans tout cela, on peut se rappeler que on peut se tourner vers Jésus-Christ, qui peut nous décharger de notre culpabilité, nous assurer que nous sommes parfaitement acceptés par Dieu, pour nous transformer et si nous permettre de marcher d'une manière droite dans les endroits où il nous a placés. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on ferait devant un si grand salut offert par Dieu? David, il nous donne la réponse appropriée en psaume 40. David, il s'offre lui-même à Dieu comme un sacrifice pour le remercier de cette libération extraordinaire que Dieu a faite pour lui. Et Paul aussi, il nous invite à faire ça en Romains 12. En fait, en réponse à tout l'évangile que Paul a exposé dans les 11 chapitres qui précèdent, Paul, il arrive en Romains 12 à dire: Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous voyez, nos corps, nos vies, qui étaient entachées du péché, entachées de la culpabilité, elles peuvent maintenant être un culte à Dieu, un culte que Dieu agrée, un culte qui est saint, qui est agréable à Dieu parce qu'il nous a rendus parfaits en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous rend parfaitement acceptables devant Dieu. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Alors vivons enracinés dans cette vérité. Dieu bénisse.